Les rendez-vous de l'Opéra Studio.
Open Studio Stammtisch.
Las citas de l'Opéra Studio.
Les rendez-vous de l'Opéra Studio.
Opera Studio Rendezvous.
和科尔玛歌剧工作室的约会。
Les rendez-vous de l'Opéra Studio.
Let's go meet the Opera Studio.
Dita famete l'Opéra Studio.
Les rendez-vous de l'Opéra Studio.
Встреча с оперной студией.
Opéra Studio, bonjour.
Les rendez-vous de l'Opéra Studio.
Et bonjour à tous, et nous voici repartis pour 30 minutes d'émission des rendez-vous de l'Opéra Studio. Qu'est-ce que l'Opéra Studio ? Un centre de formation et d'insertion professionnelle pour jeunes artistes lyriques, pianistes et chefs d'orchestre. Cet Opéra Studio étant basé à la Comédie de Colmar. Mais je ne vous en dis pas plus, vous le savez maintenant, ce qu'est notre Opéra Studio. Alors aujourd'hui, je reçois Monsieur Didier Puntos, qui est pianiste, compositeur, arrangeur, chef d'orchestre, fin pédagogue, je ne sais pas s'il est bon cuisinier, on va lui demander. Il est chez nous à l'Opéra Studio de Colmar depuis le 8 novembre dernier pour les répétitions de L'Enfant et les Sortilèges de Ravel sur un livret de Colette. Cher Didier, bonjour.
Chère Sandrine, bonjour.
Mais je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui au rendez-vous du studio. Peux-tu tout d'abord nous présenter cet ouvrage de L'Enfant et les Sortilèges?
Alors, L'Enfant et les Sortilèges, une fantaisie lyrique, puisque c'est le nom que donne Ravel à son opéra, enfin un de ses deux opéras, puisqu'il a écrit un autre opéra, un autre ouvrage lyrique qui est L'Or espagnol, écrit, sauf erreur, entre les années 1919 et 1925.
Je pense que c'est ça, exactement.
Tu me confirmes?
Mais oui.
Et en l'occurrence, avec cette histoire un peu étrange, c'est que le directeur de l'Opéra de Paris, de l'époque, a commandé d'abord un livret à une femme très en vue à l'époque, à savoir Colette. Colette s'exécute, écrit le livret de L'Enfant et les Sortilèges, qui d'ailleurs a un sous-titre qui est « Ballet pour ma fille », et va se poser cette question quand même assez étonnante dans l'histoire de l'opéra, c'est que le directeur en question et Colette se disent « Bien maintenant, qui va écrire la musique ?»
Eh oui, quand même.
Oui, ce qui pour un opéra peut paraître une question relativement légitime, voire un peu incontournable.
C'est ça.
On peut le dire comme ça. Et en l'occurrence, il y a un nom qui apparaît tout de suite, parce qu'un des compositeurs le plus en vue de l'époque, un certain Maurice Ravel. Maurice Ravel accepte, mais il tarde à se mettre à l'ouvrage et n'avance pas, à un point tel que finalement, la création prévue à l'Opéra de Paris n'aura pas lieu.
Oh,
oui. Mais quelques années après, le directeur de l'Opéra de Monte-Carlo, qui avait commandé précédemment justement l'autre ouvrage lyrique, L'Or espagnol, se souvient de ce Maurice Ravel et dit « Mais après tout, il y a un petit livret sous le coude, il y avait un projet avec l'Opéra de Paris qui a été avorté, donc pourquoi on ne le ferait pas chez moi, à Monte-Carlo ?»
Très bonne idée.
Très bonne idée, qui en plus là va s'avérer pratique et de fait, Ravel finit par composer cette musique, non sans peine, qui sera créée en 1925 à l'Opéra de Monte-Carlo. Alors c'est un ouvrage assez étonnant parce que du fait déjà du livret, commençons par ça, puisque eh bien, cet enfant qui va maltraiter son environnement va se retrouver entouré par des sortilèges, tous ces objets, ces animaux qu'il a maltraités vont d'un seul coup lui donner la réplique, qui plus est en chantant, ce qui n'est tout de même pas une chose très quotidienne.
Ce n'est pas banal, en effet.
Ce n'est pas banal, nous sommes d'accord là-dessus. Et va nous entraîner dans un monde absolument étonnant entre comédie musicale américaine, qu'il venait de découvrir et qui l'avait vraiment extrêmement intéressé, et puis des moments aussi beaucoup plus lyriques, je pense à la seconde partie, puisqu'il y a une première partie de l'ouvrage qui se passe à l'intérieur de la maison, une autre dans le jardin, avec d'un seul coup des sonorités et des choses miraculeuses, sonores, liées évidemment à la patte et à l'ADN incomparable de Maurice Ravel, justement. Alors c'est un ouvrage qui, on pourrait dire que c'est un opéra sur l'enfance, plus qu'un opéra pour les enfants. Au bout du compte, ce qui tombe bien, c'est que c'est un opéra pour tous les publics. Et c'est bien dans cet état d'esprit et dans cette philosophie que Émilie Caplier, la metteur en scène de la production, a travaillé. Je crois qu'il a régalé aussi bien pour les publics de 6 à 120 ans.
Oui, parce que oui.
Nous souhaitons longue vie à nos auditeurs, au demeurant.
Tout à fait.
Et qui n'est jamais allé trop tard, il n'est jamais trop tard pour aller à l'opéra.
Exactement, je suis tout à fait de ton avis. Mais alors donc, la version écrite, enfin disons, l'ouvrage écrit par Ravel, est écrit pour un grand orchestre. Et nous, est-ce qu'on le donne pour grand orchestre?
Alors non, nous on la ramène à la taille d'un enfant. C'est-à-dire que c'est un orchestre bonsaï, c'est un orchestre qui, j'espère, puisque c'est moi qui suis l'auteur, peut-être le coupable, je laisserai les auditeurs se déterminer quand ils viendront écouter L'Enfant et les Sortilèges, de cette version de chambre extrêmement minimaliste, puisqu'en effet, tu l'as dit, l'orchestre est très important, on pourrait le qualifier même d'hollywoodien. Quasiment, de par ses couleurs, la magnificence des instruments qui sont présents. Mais à une époque où j'étais chef de chant à l'Opéra de Lyon, qui m'a commandé cette version il y a déjà maintenant fort longtemps, il y a deux choses qui m'intriguaient dans ce rapport entre l'orchestre et la musique et l'histoire dans L'Enfant et les Sortilèges. À savoir, d'une part, que je trouvais assez étonnant ce déploiement, pour revenir au mot que j'ai utilisé, hollywoodien, pour une histoire finalement extrêmement intime. C'est une initiation, c'est un enfant qui se débat un peu avec lui-même, qui se débat avec le monde des adultes et qui va essayer de trouver une solution pour grandir et que tout ça ne soit pas complètement perdu. Mais entre l'intimité du sujet et le traitement orchestral, il me semblait qu'il y avait quand même quelque chose qu'on pouvait interroger. Et puis, le deuxième point, c'est que dans L'Enfant et le Sortilège, une des scènes peut-être les plus marquantes, c'est celle de la princesse, où là, pendant 5 minutes, c'est-à-dire quasiment 10% de la durée de l'ouvrage, qui est très court, Ravel tait complètement tout l'orchestre pour ne faire dialoguer que la chanteuse avec une seule petite flûte magnifique de fragilité. Et il me semblait que ces deux éléments pouvaient peut-être permettre de faire exister cette musique différemment et de manière beaucoup plus intime, de manière beaucoup plus resserrée dans son traitement orchestral, avec toute la référence et toutes les références et les révérences que nous devons à Ravel quant à son orchestre, d'où cette idée d'une formation en quatuor, puisqu'au bout du compte, nous sommes 4 instrumentistes sur le plateau.
C'est ça. Alors donc, 2 pianistes sur un même piano, donc piano 4 mains. Donc tu tiens la partie grave, enfin une des 2 parties, et chacun à son tour, un pianiste de l'Opéra Studio, soit Levi, soit Rosa, joue pour les représentations. On a un violoncelliste et une flûtiste, enfin 2 flûtistes qui elles aussi se relaient. Donc les 2 pianistes, on sait qu'ils viennent de l'Opéra Studio. D'où viennent le violoncelliste et les 2 flûtistes qui ont participé également à ce projet?
Alors, le violoncelliste, Octave Diaz, ainsi que les 2 flûtistes qui jouent donc en alternance, en l'occurrence Miglé Astrakaité, je vais redire son nom parce que...
Vas-y, respire.
Je respire un bon coup. Miglé Astrakaité.
Bravo.
Et Noah Bergovitch sont les 3 de jeunes et brillants musiciens qui viennent du Pôle Sup de Strasbourg, que j'ai auditionné au mois de juin maintenant, donc ça fait déjà un petit temps, de manière à compléter l'équipe, comme tu l'as dit, est composée de ces 2 pianistes qui sont chez vous stagiaires chefs de chant. Donc on a là un produit très maison, très strasbourgeois, comme en plus les 8 chanteurs de la production sont tous issus de l'Opéra Studio du Rhin. On peut dire que là, il y a un bel entre-soi, un entre-soi pour la bonne cause et je pense pour la belle qualité du spectacle.
Oui, ça, je le confirme, c'est très très beau. Nous avons déjà fait plusieurs, vous avez déjà fait plusieurs représentations. Pour illustrer un petit peu l'univers de Ravel, je vous propose d'écouter une chanson Madécas chantée par Stéphane Degout dans justement, accompagnée par un effectif tout à fait similaire, à ceci près que le pianiste est tout seul sur son piano, pour piano, flûte et violoncelle. Donc nous écoutons Stéphane Degout dans les chansons Madécas.
Respiration précipitée que donne une marche rapide. J'entends le froissement de la bagne qui l'enveloppe. C'est elle, c'est elle, c'est elle. C'est la mort, la paix.
Voilà, cet extrait des chansons Badécas, accompagné au piano par Michael Guido, à la flûte Matteo Cesari, au violoncelle Alexis Descharmes et chanté par Stéphane Degout, que nous avons d'ailleurs accueilli à l'Opéra Studio pour des masterclass cette saison, avec un grand plaisir. C'est un artiste magnifique et très, très pédagogue. Les étudiants ont vraiment adoré ce moment de travail avec lui. Continuons. Pour un petit peu savoir quelle a été ta fonction auprès des jeunes artistes de l'Opéra Studio durant cette période de répétition de L'Enfant et le Sortilège qui a commencé le 8 novembre dernier. Alors explique-nous un petit peu leur quotidien.
Et leur quotidien, ça a été beaucoup de répétitions puisque donc ils sont 8 sur le plateau, nos amis chanteurs et chanteuses. Et le parti pris de la metteuse en scène, Émilie Caplier, est, on va laisser découvrir évidemment le spectacle à nos futurs spectateurs et spectatrices, mais impliquait que finalement les 8 chanteurs et chanteuses soient tout le temps sur le plateau. Donc finalement tout le monde a été concerné par nos 6-7 heures de répétition quotidienne, alors ce qui évidemment crée déjà un groupe, avec quelquefois les fatigues qu'il peut y avoir, les tout petits agacements aussi, ça fait partie d'une vie de troupe, parce que c'est quand même ça un peu l'idée, c'est d'essayer de créer une dimension de troupe, comme on peut en trouver certainement plus souvent au théâtre que dans l'art lyrique. Ma fonction, eh bien, puisque j'ai réalisé cette adaptation, que je joue au piano, je me considère un peu comme un premier violon d'un quatuor à cordes, c'est-à-dire que je ne dirige pas physiquement ou du piano, mais très peu de choses pour donner un départ ici, rappeler un tempo là. Mais par contre, j'essaye de fédérer tout ce beau monde pour qu'on tire un peu dans le même sens, que les choses s'homogénéisent, que l'histoire, le récit qu'on veut raconter se déroule dans un fil qui est la plus grande homogénéité possible. Je dirais, je suis un petit peu là pour faire que le jeu de chacun, de chacune, devienne un nous. Je ne sais pas si ça peut être parlant.
C'est très parlant. Oui, c'est un opéra qu'on fait tous. Ils sont, en fait, ce qu'on peut dire aussi à nos auditeurs et auditrices, c'est que tous les chanteurs sont sur le plateau du début à la fin de l'ouvrage. C'est le parti qu'a pris Émilie pour sa mise en scène, parce que justement, elle décrit une troupe. Alors, on n'en dira pas plus, mais voilà. Et donc, c'est vrai que c'était très important, justement, cette cohésion. Mais c'est vrai aussi qu'il a fallu, et je t'ai vu travailler, je vous ai vu, je vous ai observé, tous les jours, tu faisais un planning très détaillé, telle personne de telle heure à telle heure, telle personne de telle heure à telle heure, puisque après, on faisait la scène avec ces mêmes personnes. Et donc, c'était tout très organisé pour que et la musique et la mise en scène finalement ne fassent qu'un et que les artistes puissent construire leur personnage à travers évidemment le chant mais aussi à travers le prisme du comédien. Voilà, ils se sont construits de ces deux façons-là.
J'espère que ça transpire au bout du compte au niveau du résultat, mais en tout cas, c'est en effet la philosophie. Et pour revenir à ta question, à savoir quelle est ma place, bien, je dirais celle-là, c'est-à-dire en effet un entraîneur de troupe, un créateur de liens musicaux, de liens théâtraux. Et c'est une chose que j'aime parce que je pense qu'elle demande en effet de la conviction. l'action, qu'elle demande à embarquer les gens, à faire preuve d'une certaine autorité, mais quand je parle de ne pas être autoritaire du tout, j'en serais d'ailleurs bien incapable, c'est pas du tout mon tempérament, mais d'asseoir une certaine autorité, parce que voilà, il y a une connaissance peut-être de la partition, il y a une expérience aussi, puisque c'est loin d'être pour moi la première production, même si celle-là me ravit par plein d'aspects, d'abord parce que c'est l'Opéra Studio, que j'ai rencontré des gens fort sympathique et fort compétent, et puis parce que les chanteurs-chanteuses jouent vraiment magnifiquement le rôle, parce que Émilie nous a emmenés dans un parti pris peut-être un peu risqué au départ. On a travaillé pas mal la partition avant, une petite année avant, nous deux, pour voir un peu ce qui pouvait transpirer de sa conception, de ce que pouvait nous aussi nous raconter évidemment la musique. Et j'avoue que ce parti pris, qu'en est vraiment un, est au bout du compte extrêmement, en tout cas moi, me convainc énormément et éclaire l'ouvrage d'une manière assez inattendue, mais je pense extrêmement pertinent.
Mais il fonctionne très bien parce que vous avez déjà joué devant des publics scolaires, mmh. et la réaction des enfants est assez incroyable, c'est très direct. Mmh. Ils réagissent très très bien. Mmh. C'est amusant et même parfois ils réagissent de manière inattendue et c'est assez touchant. Finalement, parce qu'ils ont une lecture encore différente que celle qu'on pense leur proposer. Enfin, c'est la magie du spectacle vivant. Aussi.
Enfin, disons-le tout court, oui, Sandrine.
Vas-y.
Nous sommes très bons.
Voilà.
Nous faisons notre autopub sans aucun complexe.
Aucun.
Mais avec grande humilité. Parce que, évidemment, que monter sur scène questionne tout le temps. On remet toujours vraiment la chose en question. Et je crois qu'il y a aussi cette philosophie de faire ce métier sans complexe, parce que si on a des complexes, c'est un peu compliqué de monter sur une scène, mais en toute humilité.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire travailler sérieusement sans se prendre au sérieux.
Absolument.
Et ça, c'est vrai que c'est ce qu'il faut avoir en tête dans ce métier, beaucoup d'humilité et le goût du travail. C'est parce que de toute façon, on n'arrivera jamais au bout, mais quand même, le plaisir est aussi un peu dans le travail. Enfin, ça, je parle de manière personnelle. Alors, nous allons illustrer cette émission, comme d'habitude, par un nouvel extrait, cette fois-ci pour piano à quatre mains, précisément, un extrait de Ma mère loi de Ravel, qui est écrit d'après les contes de Perrault, et c'est à l'intention des enfants de ses amis Ida et Sipa Kobebski, Jean et Mimi, que Ravel écrivit cette suite pour piano à quatre mains. Ma mère loi témoigne du goût du musicien resté célibataire et sans descendance pour une thématique enfantine que l'on retrouvera également plus tard dans
L'enfant et les sortilèges.
Nous écoutons L'Aidronette, impératrice des pagodes, interprétée ici par Martha Argerich et Akiko Ebi.
Thank you.
Magnifique interprétation de Martha Argerich et Akiko Ebi dans L'Aidronette impératrice des pagodes pour piano à quatre mains de Maurice Ravel. Alors justement, en parlant de piano à quatre mains, est-ce que les répétitions de mise en scène ont été faites toutes au piano à quatre mains?
Alors non, on a commencé comme on commence dans une vraie maison d'opéra avec un vrai orchestre au bout du compte, c'est-à-dire ce qu'on appelle des scéniques. Donc avec la partie de piano-chant, donc partie piano deux mains, qui est une réduction de l'orchestre. Ça a été à peu près d'une durée de 3 semaines. Et assez vite, j'ai demandé à ce que moi, je puisse travailler avec justement Léva et Rosa, qui sont mes deux partenaires de quatre mains, à commencer à travailler le quatre mains avec eux deux, de manière à construire déjà notre binôme. Et les deux dernières semaines de scénique se sont faites pour le coup en piano à quatre mains, alors avec des petits aménagements ici et là pour faire apparaître une partie de flûte qu'on n'avait pas dans la partie de piano quatre mains ou une partie de violoncelle.
Oui, c'est-à-dire, oui, en attendant les autres musiciens.
En attendant l'arrivée,
oui,
absolument,
d'octave. Donc en fait, les pianistes ont travaillé 3 partitions. Ils ont d'abord travaillé la partition pour 2 mains, c'est-à-dire pour piano solo de la réduction d'orchestre. Ensuite, ils ont travaillé leur partie de 4 mains avec des ajouts de flûte, etc., parce qu'elle n'était pas encore arrivée. Et ensuite, enfin, quand les instruments sont arrivés, ils n'ont eu à jouer que leur partie de pianiste. Voilà, voilà le métier de chef de chant.
Absolument. Bah, c'est des pianistes tout-terrain, oui, qui sont capables de relever tous les défis, toujours avec le sourire évidemment, pas forcément avec tous les remerciements je trouve qu'ils mériteraient.
Mais on est bien d'accord,
mais ils ont été plutôt bien traités je trouve quand même dans cette production. Et puis surtout, il y a le plaisir pour eux d'être sur scène pour les représentations et de partager cette scène avec leurs collègues chanteurs de l'Opéra Studio du Rhin.
Oui.
Ça, c'est une belle, je trouve, c'est une belle opportunité. Et en tout cas, c'est ce que permettait évidemment ce projet.
Oui, tout à fait, parce que les chefs de chant, en général, une fois qu'ils ont joué à la générale piano, ce qu'on appelle le dernier filage de mise en scène au piano dans l'opéra, après, ils sont... Alors, leur travail ne s'arrête pas. Ils continuent à travailler, mais ils ne sont plus au piano. En fait, ils sont dans la salle, ils écoutent les équilibres, ils sont finalement un petit peu assistants. Enfin, ils sont les oreilles dans la salle que le chef ne peut pas avoir, puisqu'il est tout près de son orchestre, et que les chanteurs ne peuvent pas avoir non plus parce qu'ils sont en train de chanter et qu'ils n'ont aucune idée de l'équilibre et de ce que ça donne depuis la salle, finalement.
Et donc, l'occasion de redire à quel point ce sont des postes essentiels, très méconnus, pas toujours reconnus et pas toujours valorisés, je trouve, à la hauteur des services qu'ils peuvent vous rendre et de ces chevilles ouvrières absolument essentielles dans l'élaboration d'une production.
Ah, mais ils sont du début à la fin, ça c'est sûr. Hein. Ça c'est sûr, ils sont du début à la fin. Dans certains théâtres, après qu'ils aient fait les balances, c'est-à-dire qu'ils aient été les oreilles du chef, après ils montent en cabine lumière, ils envoient les top lumières parce que les partitions sont ce qu'on dit, topé, c'est-à-dire qu'à tel moment précis de la musique, on envoie tel effet lumière. Et souvent, ce sont les pianistes qui sont chargés, à côté de la console et à côté du technicien, d'envoyer les lumières. Et parfois aussi, ils envoient les surtitrages.
Absolument.
Et ça, c'est la partie la moins intéressante du métier de chef de chant, parce que quand on envoie les lumières, on voit un petit peu le spectacle. Alors, quand on envoie le surtitrage, alors là, on a le nez collé sur la partition.
Absolument.
Et alors là, aucune chance de voir le spectacle. Mmh. Bon, voilà, ça, c'était une petite parenthèse. Donc nous avons parlé de nos amis pianistes chefs de chant, nos amis instrumentistes de la IR de Strasbourg qui nous ont rejoints en cours d'élaboration de ce projet ont d'abord travaillé uniquement avec toi et les pianistes avant de travailler avec les chanteurs, c'est bien ça?
C'est ça, c'est-à-dire que dans le déroulé des répétitions, donc on a parlé des scéniques piano deux mains, des scéniques piano quatre mains, et assez vite j'ai quand même fait venir les flûtistes pour qu'on travaille cette scène un peu centrale et assez difficile quand même, qu'est le duo princesse-flûte que j'évoquais tout à l'heure, de manière à ce que de manière un peu anticipée, ces musiciennes-là se retrouvent. Ça crée du lien aussi, ça crée de la fluidité. Et puis après, eh bien, comme dans un opéra traditionnel, j'ai fait une lecture avec le quatuor sol, sans les chanteurs, et ensuite une italienne, qui est un moment évidemment très important. C'est une répétition de 3 heures, en l'occurrence, où on lit l'ouvrage du début à la fin, avec tous les musiciens, chanteurs réunis, du coup, sur le plateau.
Sans la mise en scène.
C'est bien ça,
l'italienne.
Absolument.
Voilà, c'est ça. On se remet dans la musique uniquement.
Uniquement.
C'est ça.
Et puis après, on a eu deux scènes sauf erreur, deux scènes orchestre, où là, eh bien, le spectacle prend forme, avec l'effectif au complet, la mise en scène, les costumes, les maquillages, les lumières. Et nous avons eu une pré-générale et une générale avant d'attaquer la série de représentations. Il y en aura quand même 41 au total. Pour l'instant, nous en sommes à la 7e, en sachant que cet après-midi, nous faisons la dernière à 17h. La dernière de Colmar.
Ah, parce qu'après, il va y en avoir beaucoup, beaucoup. Alors, ce soir, venez nombreux à Colmar à 17h à la Comédie pour voir la dernière représentation de L'Enfant et les Sortilèges de cette année 2021. Voilà, nous reprendrons l'année prochaine. Donc maintenant, je voudrais vous faire écouter un extrait du Tombeau de Couperin de Ravel, donné par un orchestre magnifique que peut-être un jour intégreront nos amis instrumentistes de la IR.
On leur souhaite.
Ah ben on leur souhaite, oui, tout ce mal-là. L'Orchestre National de France, donc dirigé dans cet extrait par Christian Macellaru, dans donc un extrait du Tombeau de Couperin, le prélude. Donc ce très bel extrait du Tombeau de Couperin qui nous est offert par l'Orchestre National de France, dirigé par Christian Macellaru. Quelle belle musique, cette musique de Ravel, quand même.
Quelle belle musique. Et puis, elle raconte aussi, si je me permets cette parenthèse, à quel point Ravel a été un des compositeurs qui finalement, a presque le plus orchestriste qu'il a d'abord écrit pour le piano, parce que peut-être que nos éditeurs auditrices ne le savent pas, mais par exemple Ma Merloie qu'on a entendu tout à l'heure, la version originale est pour piano 4 mains, Ravel l'orchestrera plus tard, et maintenant on connaît finalement cette partition plus souvent via sa version d'orchestre, mais qui est en réalité postérieure à celle de l'original. Même chose pour ce Tombeau de Couperin, il l'a écrit pendant la Première Guerre mondiale. D'ailleurs, toutes les pièces sont dédiées à des amis morts sur le front. Et la version originale, donc, est pour piano. Et Ravel en fera l'orchestration qu'on vient d'entendre après. Saluons aussi le hautbois solo de l'Orchestre National de France, au passage, puisqu'on l'entend très en valeur. Et je crois d'ailleurs que c'est un des traits d'orchestre qui est très souvent demandé quand on veut passer un concours d'entrée pour rentrer comme hautbois dans un orchestre en France ou peut-être même à l'étranger.
Oui, il y a aussi le solo de l'échelle de soie, je crois, pour le hautbois. Voilà. Oui, des extraits comme ça, ce qu'on appelle des traits d'orchestre.
Absolument.
Quand on se présente présente dans un orchestre, on a une liste de traits d'orchestre. Donc tout ce, c'est en fait c'est un petit best-of de tous les solos les plus difficiles qu'il faut jouer devant un jury. Et voilà, il faut défendre sa place.
Absolument. Et, voilà, et elle est chère.
Elle est très très chère. Donc pour revenir à l'enfant, les sortilèges, la version d'opéra nomade qui est donnée par les artistes de l'opéra studio. Opéra nomade, pourquoi? Parce que il va être nos artistes et nos musiciens, nous tous, nous allons sillonner le Grand Est. Nous serons à Strasbourg à partir du 12 janvier, du 12 au 23 janvier, à Mulhouse du 11 mai au 20 mai, mais on sera aussi à Mutzig, à Bar-le-Duc, à Sainte-Marie-aux-Mines. Donc on va vraiment être de vrais nomades, de saltimbanques bien nomades. Voilà, c'est des troubadours, c'est magnifique, je trouve, de retrouver cet esprit.
Alors, en tout cas, moi, ça me ravit et c'est une chose qui m'importe beaucoup. Je suis assez militant de la cause lyrique, dans la mesure où il faut faire entendre ce répertoire, il faut le défendre et il faut l'emmener là où il ne peut pas aller, justement. Et c'est en ce sens que, très, encore une fois, avec beaucoup d'humilité, mais la version que j'ai pu réaliser a au moins cette vertu, c'est qu'on peut être sur le plateau, on n'a pas besoin de fausses, d'orchestre. Donc ça va nous permettre d'aller, je pense par exemple à Sainte-Marie-aux-Mines ou à Mulhouse, puisque nous serons pas à la filature, mais
au Pax
à Mulhouse, où il n'y a pas de fausses. Et je pense que ça, c'est une chose extrêmement importante, que d'être militant pour la cause lyrique. Ce qui fait qu'on va faire une chose qui est rarissime, enfin très exceptionnelle pour l'opéra. On va donner cet opéra tout de même, je crois, sauf erreur, 41 ou 42 fois.
Oui, c'est ça.
Alors qu'une série, normalement, dans des maisons de taille moyenne, c'est 4-5 fois. Et puis, quand on est dans des grandes maisons, c'est 7-8 fois. Mais guère au-delà. Et là, il faut citer quand même Alain Perroux. Le directeur de l'Opéra National du Rhin, qui a vraiment cette volonté, et ça faisait partie de son projet, et il le met en œuvre maintenant, de cet opéra nomade pour aller sur les routes le plus possible et aller à la rencontre de salles et de publics qui ne sont pas forcément particulièrement touchés et qui ne se sentent pas forcément concernés par l'opéra. On espère que ce qu'on va leur proposer leur donnera envie d'aller plus avant et peut-être d'aller aussi écouter la vraie version, enfin la version originale, celle d'un certain Maurice Ravel, par exemple.
Ah oui, j'ai entendu parler. Il n'a pas composé un truc qui s'appelle le Boléro.
Oui, on en parlera une autre fois, mais c'est ça, toute une histoire.
Semble, il me semble. Bien, ben, pour donner envie à nos auditeurs de venir voir le spectacle, je vous propose, pour nous quitter, Le Cœur de la Rose, chanté par Brinda Poupard, qui est notre enfant dans notre production de L'Enfant et les Sortilèges à l'Opéra Studio, accompagné par Monsieur Didier Puntos au piano, il me semble. Je vous dis au revoir, à très bientôt.